Le journal de la rédaction par vous, Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Comment durcir le dispositif de sécurité lors des mobilisations des Gilets jaunes sans faire de blessés? Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire ce matin des propositions à Emmanuel Macron, près de 48 heures après un nouveau samedi de violence à Paris. La police est la plus critique, vous l'entendrez.
Et puis la question de la répression des violences réapparaît donc, alors que le Conseil constitutionnel se penche en ce moment sur la loi dite anti-casseurs, analyse d'un professeur de droit pénal à suivre.
Dans cette édition, nous vous présenterons aussi le débat prévu ce soir entre Emmanuel Macron et 65 intellectuels, débat retransmis sur France Culture en direct, qui soulève quelques interrogations, nous y répondrons.
Et modéré par Guillaume Erner, bien sûr. Les vols des deux Boeing 737 Max qui se sont écrasés récemment montrent des similitudes claires selon leur boîte noire. L'avionneur américain promet de corriger rapidement son logiciel, nous y reviendrons.
Des manifestants pro-Brexit mettent le cap sur Londres, s'estimant trahis par le gouvernement. Ils marcheront pendant 10 jours. France Culture les a rencontrés sur la côte est de l'Angleterre. Un reportage dans 10 minutes. Des dysfonctionnements. Matignon l'a concédé hier soir au lendemain d'une journée de violence sur les Champs-Élysées à Paris. Violence lors de la 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes. 92 personnes ont passé la nuit en garde à vue. Édouard Philippe, le Premier ministre, fera donc des propositions pour adapter le dispositif de maintien de l'ordre. Il sera ce matin à l'Élysée face au président de la République Emmanuel Macron. Alors que l'exécutif est accusé d'avoir sous-estimé le risque de violence, Florence Turm.
Tout au long du week-end, les critiques sont montées non seulement de la classe politique, mais aussi des rangs même des forces de police. L'opérationnalisation du maintien de l'ordre a été un échec, résume Yves Lefebvre, le responsable du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, avant même que l'exécutif ne reconnaisse hier soir des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Les services de renseignement avaient pourtant, semble-t-il, pointé les risques en amont de la manifestation, organisée en parallèle de la marche sur le climat, à la fois en termes de mobilisation et de violence potentielle. Le dispositif retenu avait prévu 41 unités de force mobile, CRS et compagnies d'intervention, ainsi qu'une cinquantaine de détachements d'action rapide pour interpeller les casseurs. Mais une fois de plus, ils ont dû faire face à des groupes de Black Blocs particulièrement violents et très nombreux, plus d'un millier, qui avaient infiltré le cortège des Gilets jaunes et qui s'en sont pris directement aux forces de l'ordre. Au final, les dégradations que l'on sait, une soixantaine de blessés, plus de 200 personnes placées en garde à vue. Aujourd'hui, c'est à la fois la stratégie de déploiement et la réaction à tenir face à ces casseurs qui posent question. Un dispositif qui avait déjà été adapté à la suite des événements du 1er décembre et qu'Édouard Philippe promet de réformer à nouveau en présentant de nouvelles mesures d'ici la fin de la matinée.
L'idée pourrait être de passer d'une présence défensive et statique à une présence policière offensive, mobile, que les forces de l'ordre aillent au contact. Il y a aussi la possibilité de sanctuariser certains lieux dans Paris, comme les Champs-Élysées, de rétablir également l'état d'urgence. Difficile exercice, nous le comprenons, que de se montrer plus ferme, alors que la loi dite anti-casseurs, adoptée la semaine dernière par le Parlement, cette loi est examinée par le Conseil constitutionnel et elle essuie de vives critiques. Les violences de samedi légitime-t-elle ce texte? Elle pose question en tout cas selon Olivier Kahn, maître de conférence en droit pénal à l'université de Tours.
Cette fois-ci, et alors que le texte est devant le Conseil constitutionnel, le moins qu'on puisse en dire, c'est que le maintien de l'ordre a été beaucoup plus distant et beaucoup moins agressif envers les manifestants. Alors, moi, je pense qu'il faut se féliciter de l'abaissement du niveau de violence de la police après le rapport du défenseur des droits, le rapport des agences de l'ONU demandant à la France de respecter les droits fondamentaux en termes de maintien de l'ordre. Mais le résultat est quand même troublant. De constater que, alors que ce texte extrêmement polémique, qui pose beaucoup de questions en droit et devant le Conseil constitutionnel, on a de nouveau une journée de manifestation extrêmement dure et brutale. Et j'espère que le Conseil constitutionnel saura faire preuve de discernement.
Cette loi anti-casseurs prévoit, rappelons-le, la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester. Édouard Philippe, le Premier ministre, fera donc des propositions ce matin à 11h30 au Président de la République. Un peu plus tard dans la journée, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, tiendra une réunion pour évaluer les dégâts engendrés par ces violences chez les commerçants parisiens. Enfin, notons que demain, mardi, Bruno Le Maire, ministre de l'économie donc, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, seront amenés à s'expliquer devant le Sénat et sa commission des lois et des affaires économiques. L'exécutif français face au dysfonctionnement des dispositifs de sécurité, ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons après ce journal. La violence comme moyen d'expression pour certains. Le gouvernement, lui, voulait en venir à bout grâce à son grand débat national qui a pris fin sur Internet vendredi dernier. Mais Emmanuel Macron poursuit les échanges. En fin d'après-midi, le président recevra plus d'une soixantaine d'intellectuels. Des discussions retransmises en direct à partir de 18h30 sur notre antenne, sur France Culture. Beaucoup de ces intellectuels interviennent d'ailleurs régulièrement sur France Culture. Il y aura des économistes comme Daniel Cohen, Jean Pisani-Ferry, des philosophes également comme Marcel Gauchet, Frédéric Worms, Myriam Revaud-Allonne, des sociologues aussi. Nous pouvons citer Michel Vivorca, Luc Boltanski. On y verra aussi l'historien Benjamin Stora. 65 personnes au total devant Emmanuel Macron. Et voici les dessous de ce débat avec Stéphane Robert.
Cela faisait plusieurs semaines qu'Emmanuel Macron, nous dit l'Élysée, souhaitait organiser un débat avec des intellectuels. Mais il ne savait pas trop quand, comment, avec qui. Finalement, l'invitation a été lancée à un peu plus d'une centaine de personnes, des philosophes, des économistes, des sociologues, des historiens, et ils sont un peu plus d'une soixantaine à y avoir répondu favorablement. Un certain nombre d'entre eux regrettent qu'ils soient aussi nombreux. Comment, dans ces conditions, disent-ils, organiser un débat constructif et serein? Sur cette question, il n'y avait pas de bonne solution, rétorque un conseiller d'Emmanuel Macron. Si on avait invité une dizaine ou une quinzaine de chercheurs, on nous aurait reproché d'avoir fait un tri et d'avoir fait des choix qui nous arrangent. L'Élysée a donc décidé d'en inviter un grand nombre, et ce ne sera pas nécessairement une promenade de santé, reprend le conseiller du président, face à des hommes et des femmes structurés intellectuellement. Quant à savoir s'il fallait organiser la retransmission médiatique de ce débat, j'ai plaidé pour qu'il y ait une intermédiation, reprend ce même conseiller. France Culture a donc été contactée il y a une semaine environ, et c'est Guillaume Herner, présentateur des Matins, qui officiera comme intermédiaire. Il aura un rôle de médiateur et de modérateur, explique la directrice de la chaîne, Sandrine Trainer, pour qui France Culture doit avant tout documenter ce débat inédit qui sera donc retransmis dans son intégralité. Certains pourront voir là une forme de complaisance, voire de déférence vis-à-vis du président. C'est le risque évidemment, d'autant qu'on alimente là l'image peut-être un peu survendue de président philosophe. Mais l'important reste ce qui en ressortira, car cette discussion, cette confrontation est censée nourrir les réponses qu'apportera Emmanuel Macron à l'issue de la grande consultation lancée il y a maintenant près de 3 mois.
Et ce débat entre Emmanuel Macron et des intellectuels sera donc retransmis à partir de 18h20, très précisément, sur France Culture ce soir. Évoquera-t-on l'accès aux soins ce soir face à Emmanuel Macron? C'est en tout cas l'une des principales difficultés de la population française qui est remontée à l'occasion de ce grand débat national. Il en sera question de l'accès aux soins, à coup sûr, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale dès aujourd'hui, puisque le projet de loi santé y est examiné. Tout un volet de la loi est consacré au numérique et notamment à la télémédecine. Il est aussi question de supprimer le numerus clausus, ce seuil maximal d'entrée en deuxième année de médecine. Et puis, le gouvernement veut créer des hôpitaux de proximité. L'article 8 du projet de loi précise que ces hôpitaux n'auront ni service de chirurgie ni service de maternité, Tara Schlegel.
Dans la loi, ces hôpitaux conservent des consultations, un service d'urgence, de la réadaptation, et pour Frédéric Valtoux de la Fédération hospitalière de France, c'est plutôt une bonne idée.
Il faut conforter ce réseau, mais surtout veiller à ce que les hôpitaux de proximité demain ne soient pas des hôpitaux de second rang. C'est-à-dire qu'on doit y trouver vraiment un des vraies forces médicales, et deuxièmement, un plateau technique de radiologie, un laboratoire de biologie. Enfin, il y a des services minimums à assurer. Et si vous voulez, la réforme en cours, elle est intéressante parce qu'elle dessine un nouveau système de santé, mais ce qu'on ne voit pas très bien aujourd'hui, c'est les modalités de financement.
À propos des vraies forces médicales à attirer dans ces hôpitaux de proximité, la collaboration avec le privé est effectivement un défi, admet Philippe Vermeche, il préside le syndicat des médecins libéraux.
Grosso modo, on aura vraisemblablement des libéraux avec des statuts mixtes qui travailleront à la fois sur l'hôpital et à la fois en libéral en ville. Donc très bien, le seul problème, c'est qu'il faut qu'on ait suffisamment de médecins qui puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, les libéraux qui ont des cabinets surbookés ne vont pas dégager du temps pour aller travailler à l'hôpital.
D'autant qu'on leur demande aussi de s'organiser en communauté professionnelle territoriale de santé.
Ça va être très lourd en gestion, et c'est vrai que moi, autour de moi, quand je discute avec les praticiens de ville, ils sont aujourd'hui pas très prêts à s'engager dans ces communautés de professionnels parce que ça va leur demander encore plus de travail par rapport à ce qu'ils ont là aujourd'hui. Donc il faut se méfier, et le gouvernement doit être conscient de cette affaire-là, qu'en complexifiant et en imposant des normes et des résultats aux médecins, on risque de se retrouver avec des médecins qui sont en limite de retraite, qui disent « bon, écoutez, j'en ai marre, j'arrête de travailler ».
Ce qui serait évidemment contraire à l'objectif de la loi santé.
Les missions de ces hôpitaux de proximité, dont le nombre pourrait plus que doubler, leurs missions seront inscrites dans la loi.
8h10 sur France Culture, la suite du journal avec vous, Clara Lecoq-Réal et le cardinal Philippe Barbarin qui sera reçu ce matin par le pape François.
Oui, à partir de 10h tout à l'heure au Vatican, le cardinal de Lyon présentera sa démission au pape. Il y a 10 jours, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs. Le plus haut dignitaire catholique français, âgé de 68 ans, a fait appel de cette condamnation. Les avions d'Ethiopian Airlines et de Lion Air se sont écrasés de façon similaire à 5 mois d'intervalle. La ministre éthiopienne des Transports l'affirme, elle évoque les données des boîtes noires. Dans les deux cas, c'est un Boeing 737 MAX qui est impliqué, un appareil cloué au sol dans de nombreux pays depuis une semaine. L'avionneur américain Boeing, lui, tente toujours de faire bonne figure, Loïc Loury.
Deux catastrophes aériennes en à peine 5 mois pour le 737 MAX. La réponse de Boeing pourtant n'est pas à la hauteur. Le constructeur américain a perdu 25 milliards de dollars de capitalisation mais semble ne pas prendre la mesure de la crise de confiance qui s'est installée. Lundi dernier, Boeing n'a ainsi publié qu'un bref communiqué, pas de mea culpa, pas d'explication. Une réponse bien faible face à l'ampleur du drame et face à l'interdiction de vol dans de nombreux pays du modèle d'avion mis en cause. En coulisses, l'avionneur a préféré s'adresser aux autorités de régulation pour empêcher les États-Unis de bloquer eux aussi l'appareil, mais sans succès. Boeing doit également modifier le système de stabilisation mis en cause dans l'accident de Lion Air en octobre dernier. Mais cela ne présage pas, assure le constructeur, des causes du drame de l'Ethiopian Airlines. Difficile à croire après les premières expertises. Bref, une gestion désastreuse et l'image d'une compagnie arrogante qui va pourtant devoir rendre des comptes. L'une des commissions de la Chambre des représentants envisage en effet d'ouvrir une enquête sur la certification du 737 MAX, tout cela sans compter de possibles actions en justice des familles et une perte de confiance à long terme qui pourrait s'étendre aux autres appareils du géant.
Et aux États-Unis, une question se pose. Boeing a-t-il lui-même autorisé la mise en service de ses avions à la place de l'Agence fédérale de l'aviation ? La FAA externalise en tout cas ses certifications depuis une dizaine d'années. Boeing affirme être sur le point de finaliser son correctif du système anti-décrochage de ses avions. 21 militaires maliens ont été tués hier dans une attaque contre leur camp à Diourra, dans le centre du Mali. Bamako évoque une opération dirigée par un déserteur passé dans les rangs djihadistes. Le gouvernement britannique tente de rallier suffisamment d'élus à la Chambre des communes pour ratifier cette semaine son accord sur le Brexit. Un report du Brexit a été acté la semaine dernière. Reste à savoir sur quelle durée, pour combien de semaines, pour combien de mois. Ce week-end, les Brexiteurs, c'est-à-dire les pro-Brexit, ont entamé une marche de plusieurs centaines de kilomètres qui doit les mener du nord-est de l'Angleterre jusqu'au Parlement de Londres le 29 mars prochain, date officielle du Brexit. Des marcheurs rencontré par notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud sur la côte Est à Hartlepool.
Let's go, we're heading to London.
Le vent balaye les côtes du nord-est de l'Angleterre alors que plusieurs dizaines de Brexiteurs reprennent leur marche vers Londres. L'entrepreneur Richard Tice mène la marche.
Il y a millions et millions de voteurs qui sont furieux avec le gouvernement. Et donc, c'est une manifestation contre le gouvernement. C'est très important, c'est une question de démocratie.
17,4 millions de Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Le Parlement doit en tenir compte, mais ils nous trahissent. Nous allons leur montrer qu'il ne faut pas nous prendre à la légère.
En France, vous avez les gilets jaunes. Nous avons les gilets bleus pour notre démocratie. On n'en peut plus des gens qui nous disent ce qu'il faut faire et comment penser. Londres, prépare-toi, on arrive.
Et pas question d'évoquer un second référendum, Richard Tice.
Si vous dites aux gens, vous avez mal voté, on va voter de nouveau, vous détruisez la démocratie et les gens se mettent en colère. Vous savez, des millions de Britanniques ont voté pour la première fois. Comment vont-ils réagir si on leur dit « Vous êtes trop vieux, vous êtes trop stupide, vous n'avez pas compris ». Cela détruirait la confiance dans la démocratie.
Des voitures croisent le cortège et klaxonnent en soutien des habitants, les saluent depuis leur balcon, comme Graham, retraité de la marine.
Toute la côte nord-est soutient les marcheurs. Cette ville seule a perdu 17 000 emplois à cause de l'Europe. La construction navale, l'industrie minière, tout ça, tout est parti à cause de l'Europe.
Mais attention, les marcheurs ne laisseront pas dire qu'ils n'aiment pas l'Europe. Belinda étudie le droit à Londres.
L'euroscepticisme est un mouvement européen, ce n'est pas le Royaume-Uni contre l'Europe. De nombreux pays sont inquiets des projets de Bruxelles. Et c'est très injuste de dire que nous sommes europhobes ou d'extrême droite. Nous sommes des gens ordinaires. Nous voulons juste que nos lois soient faites à Westminster plutôt qu'à Bruxelles. C'est aussi simple que cela. Nous aimons l'Europe et nos amis britanniques.
Mais l'Europe semble lassée des atermoiements britanniques. Nul ne sait si Theresa May osera même soumettre de nouveau l'accord conclu avec Bruxelles au Parlement cette semaine.
Marie-Pierre Véro, notre envoyé spécial en Angleterre en ce moment. Un temps sec et des températures fraîches s'installent de nouveau sur la France métropolitaine en ce 18 mars, journée particulière pour les poissons. Le ciel sera chargé ce matin sur les trois quarts du pays, comptez 5 degrés à Besançon, 7 à Dunkerque et Grenoble, 8 degrés au Perreux-sur-Marne, 9 à Nantes, 15 degrés à Nice.